الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. Nous passons maintenant aux différents types de contrats interdits en islam et les contrats qui sont considérés erronés. Et je vais commencer par un exposé rapide d'un type de contrat qui s'appelle Nikah al-Shirar. On ne le voit plus peut-être fréquemment aujourd'hui, pour me focaliser sur un type de contrat qui est en vogue actuellement, qui est le contrat de Zawaj, ou le mariage de jouissance, Zawaj al-Mut'a, qui est chez les sunnites un mariage interdit formellement, et chez les chiites, et c'est un mariage permis. Je parlerai un petit peu de la position des sunnites et de leurs arguments, et des chiites et de leurs arguments, et de leurs références, comme ça, d'une manière très détaillée, Inch'Allah, j'espère. Le premier mariage qui est interdit, sur lequel il y a unanimité donc, dans toutes les écoles de droit musulmans sunnites, c'est ce qu'on appelle le mariage avec échange, sans dot. Son terme, en arabe, on l'appelle nikah al-shirar. C'est quoi ce mariage sans dot, mais à échange? C'est qu'un homme donne celle qui est sous sa tutelle, sa sœur ou sa fille, un autre en contrepartie, et l'autre lui donne en mariage aussi sa fille ou sa sœur, sans qu'il y ait de dot entre eux. Un échange. Tu donnes ma sœur, tu me donnes ta sœur. Ou je te donne ma fille, tu me donnes ta fille. Entre guillemets. Hein? Et donc, il n'y a pas de dot. Ça s'appliquait, ça se faisait dans le jahiliya. Il le faisait, l'islam est venu pour bannir, pour montrer que la femme n'est pas une marchandise. Ce n'est pas un produit, c'est un être humain qui a des sentiments, qui a des droits, et qui a son mot à dire, comme nous l'avons exposé depuis le début de la définition de ce que veut dire un contrat. En islam, surtout le contrat de mariage. Et donc, ce mariage, donc, il est interdit, et donc, le prophète a dit clairement, depuis qu'il est arrivé, le hadith rapporté par l'imam muslim d'après Ibn Omar, et une version d'après Ibn Majah, d'après Anas, il n'y a pas de mariage à échange en islam. Clair et net, il n'y a pas d'aller demander les avis, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, le hadith il est clair, la shirara fil islam, il n'y a pas. Ce n'est pas une marchandise, donc il y a unanimité. Alors, c'est un mariage donc qui est non conforme, puisque les hadiths sont clairs. Alors ils ont divergé. Imaginons maintenant que ce mariage a eu lieu. Et on demande à la fille, par exemple, il n'y a pas de contrainte. Elle dit, je suis d'accord. Ou vice-versa. Toutes les deux disent qu'elles sont d'accord pour se marier. Il y a eu consommation. Alors, je parle, si c'est avant unanimité, le mariage est invalide, donc il faut l'arrêter. Mais une fois qu'il y a eu consommation, qu'est-ce qu'on fait? Alors, nous avons des divergences. L'imam Malik, l'imam Shafi'i, ils disent, on ne peut pas le corriger. Même s'il y a eu consommation, il est annulé. Parce que le hadith de Rasulullah est clair et formel. On n'accepte pas ce type. Il ne s'agit pas d'une transaction financière. Tu m'as vendu, je t'ai vendu. Donc, chez l'imam Malik, chez l'imam Shafi'i, on ne corrige pas ce contrat, par exemple, une dot similaire, etc. Il dit, avant ou après consommation, il est annulé. Simplement, l'imam Shafi'i donne un élément. En plus, il dit, mais supposons qu'ils ont cité un mahr. Ils ont dit, voilà, le mahr, c'est telle somme ou telle chose. Mais ils ne l'ont pas donné. Parce que dans ce mariage qui est invalide, je vous ai dit, c'est un échange sans mahr. Il n'y a pas de dot. L'islam est venu pour bannir. Donc, pour les mêmes chefs et les mêmes malik, consommation, pas consommation, on annule. Et surtout, les mêmes malik est très formel ici. L'imam Shafi'i dit, simplement si ils ont cité, d'une manière, on va dire, informelle, une dot, mais elle n'a pas été versée, on le corrige en donnant la dot qui a été citée et acceptée. Ça, c'est pour ce qui est de l'imam Shafi'i lorsqu'il ajoute cet élément. Abu Hanifa, et c'est la position de l'imam Ahmad d'Al-Layth et d'Abu Thawr al-Tabari, on le corrige en imposant qu'il verse un mahr qu'on appelle la dot similaire. C'est quoi la dot similaire? C'est lorsqu'une personne se marie et on ne lui a pas cité de dot, alors on va chercher une personne du même statut, même âge, hein, même équivalence, et on va lui dire, une fille de ton âge, du même statut familial, etc., ou social, en général, elle demande un mahr de telle valeur ou telle chose. Ah ben, on va exiger qu'on te donne un mahr équivalent. Ça s'appelle mahr al-mithl, c'est le terme technique. Donc, je répète, pour l'imam Abu Hanifa, l'imam Ahmad, al-Layth Abu Thawr, qui était Shafi'i, au Tabari, on le corrige par, en imposant que de part et d'autre, on verse mahr similaire, ça s'appelle. Mais les mêmes mails qu'on vous voyez, il est très très précis, très clair, parce qu'il s'attache au hadith de la sallam, mais pour lui, le hadith, il est là, on ne fait pas de jihad avec. Le prophète sallam dit, il n'y a pas de shirar en islam, et bien consommation, pas consommation, moi j'annule. Les mêmes chefs, il dit, consommation, pas consommation, j'annule, sauf s'ils avaient cité un mahr, mais ils ne l'ont pas versé, alors on demande qu'ils versent ce mahr. Voilà donc pour ce qui est de ce type de mariage, qui n'existe plus, donc, et que peut-être certains sont peut-être tentés de le faire, qu'ils sachent ce qui est un acte interdit en islam. Maintenant, le zawaj al-mut'a. Alors, une remarque de base, c'est que ce zawaj al-mut'a, et ce n'est pas les musulmans sunnites qui parlent pour dire que vous êtes en train de mentir sur les chiites, moi, vous savez très bien, je suis quelqu'un de très très objectif dans mes exposés, et je le fais d'une manière académique, je présente lorsque j'ai, même si c'est s'agit d'une doctrine que je ne partage pas, je fais un exposé objectif à partir des sources de cette doctrine-là et de leurs auteurs et penseurs. Et après, j'apporte ma critique. Donc, je n'aime pas cette méthode qu'utilisent certains musulmans, des nôtres. Ils font l'exposé, et dans l'exposé, ils répondent, et puis ils insultent, etc. Moi, déjà, les insultes, je considère que ce n'est pas une manière objective de traiter d'un sujet. Donc, l'objectivité, c'est que vous exposez ce que dit l'autre sans rien changer. Puis vous apportez vos critiques avec preuves et argumentations. Donc ce que je vais vous dire, c'est à partir des livres des chiites et non pas ce que disent les sunnites. Premièrement, c'est un contrat qui ne répond pas aux conditions du contrat légal que nous sommes en train de voir. Ce sont des remarques de base que je vous donne, mais je viendrai au détail. C'est-à-dire, et en plus, les conséquences ne sont pas les mêmes conséquences qu'exige le contrat légal qu'on avait exposé. Comme par exemple le droit et le devoir de venir de citer maintenant, de parler. Ça n'existe pas tout ça. Ni la question de l'héritage, tout ça n'existe pas. Même la filiation, il l'affirme, mais il y en a certains, des avis chez les chiites qui disent, et s'il renie, alors il recourt à l'mula'ana, ce qu'on appelle la damnation mutuelle là, et il a le droit de ne pas reconnaître cet enfant. Donc, ça c'est eux. Donc, nikah al-mut'a, dans nikah al-mut'a, il n'y a ni héritage, ni divorce, ni idda légale comme celle qu'on connaît des trois cycles. C'est une idda de deux cycles, de deux monstrueux. Donc, Ibn Abd al-Barr, le Malikite, dans son livre Al-Istidhkar, Abd al-Barr, Malikite, Andalou, dans un livre qui s'appelle Al-Istidhkar, il dit, et pour nous, c'est de la fornication. Donc j'ai donné les premiers éléments et puis il dit pour nous fahwa sifahun. Sifah veut dire zina. Ça c'est le tome 16, la page 305. Alors je vais maintenant détailler. Les chiites, ils disent que premièrement, vous devez savoir qu'ils ont quatre livres qui sont leur fondement dans le droit et dans les hadiths. Ce sont les références. Ça s'appelle Usul Arba. Le premier, c'est le Kitab Al-Kafi d'Al-Kalini ou Al-Kulaini. Il a passé 20 ans pour préparer cet ouvrage. Il s'est déplacé dans beaucoup de régions du monde musulman et il contient 16190 hadiths. Al-Kafi d'Al-Kalini ou Al-Kulaini. Deuxième référence, c'est le livre intitulé « Man la yahdhuruhu al-faqih ». Man la yahdhuruhu al-faqih. Cet ouvrage est de Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein ibn Babawayh al-Qummi, qui est mort en 381 Hijr, et il contient 5963 hadiths. La troisième référence, c'est le livre intitulé At-Tahdhib de Abu Ja'far Muhammad Ibn al-Hassan al-Tusi, mort en 460 Hégire. Il contient 13590 hadiths. Le quatrième, ce livre Al-Istibsar fi makhtulifa min al-akhbar, donc les divergences dans les nouvelles, les informations, de Abu Ja'far Muhammad ibn Hassan al-Tusi. Ja'far, Abu Ja'far Muhammad ibn al-Hassan al-Tusi, dans lequel il y a 5511 hadiths. Ces quatre références, je répète, Al-Kafi, من لا يحضره الفقيه التهذيب الاستبصار sont considérés les quatre références de base, de mer, et à partir de quelle vient le fiqh. Je parle de qui? Je parle des chiites imamites, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'imamiyya athna ashriya, ceux qui croient dans l'infaillibilité de 12 imams, dont le premier Sayyidina Ali, puis se terminant par Mohamed al-Askari, Ibn al-Askari, qui s'appelle le Mahdi attendu. 12e. On les appelle en français les duodécimains. Les duodécimains. Les Thna Ashriya, je ne parle pas des autres, ou ce qu'on appelle les Ja'farites, parce qu'ils prennent comme référence Ja'far al-Sadr. Et puis après, son fils, et ainsi de suite. Ça va? Donc moi je parle de ceux-là, qui sont la plus importante communauté chiite. Parce qu'il y a les Zaydites qui sont au Yémen, eux ils sont très très proches des sunnites. Et même leurs livres sont considérés comme étant nos livres, Zaydiya. Je ne parle pas des Ismaïliya, qui sont devenus une secte très minoritaire, et qui eux, même les chiites imamites, les considèrent non-musulmans, puisqu'ils considèrent que Sayyidina Ali était le vrai prophète, et que Sayyidina Muhammad est un usurpateur, et que l'ange Gabriel est un traître. Salam. On ne parle pas de cela. C'est ce qu'on appelle les Fatimides, les Fatimiyoun, qui ont gouverné l'Afrique du Nord 63 ans, et c'est eux les fondateurs de la ville du Caire. On les appelle les extrémistes, cela, c'est autre chose. Je ne parle pas des Yazidites, qui est une déviation du chiisme, qui sont devenus des adorateurs du diable. On trouve un peu un petit groupe encore en Irak. Ça va? Je ne parle pas des Nusayrites, qui sont en Syrie, et qui, eux, ils vénèrent Sayyidina Ali, alayhi salam, et l'ont même divinisé. Je ne parle pas des Druzes, qui c'est une aussi ramification des Ismaéliens, qui sont au Liban et un peu en Syrie. Et dont leur croyance est un mélange entre islam et christianisme et philosophie néoplatonicienne. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc moi je parle ici donc des imamites. Bah oui, parce que vous devez lire, parce que vous ne lisez pas assez les livres. Donc pour connaître tout ce qui est entraîné dans notre communauté comme dissidence et comme déviation. Donc je parle des plus importants, qui sont au Liban, qui sont en Irak, qui sont en Iran, en Irak, un peu au Pakistan, un peu en Afghanistan et au Liban. Je parle de cette communauté-là. Et parmi des gens, maintenant, il y a des Maghrébins qui sont convertis au chiisme, depuis surtout la révolution iranienne. Ils ne sont pas beaucoup, mais on a certains. Et ici en Belgique, on en a. Donc, celui qui choisit, il assume. Moi, je suis pour le choix libre. Dieu dit dans le Coran, « Celui qui veut être croyant, qu'il croit, celui qui est mécréant, qu'il soit mécréant. » Déjà avec le kuffar, il dit « Chacun est libre, même les mécréants. » Que dire? Donc, chacun assume, mais... On répond parce qu'il y a des interférences au niveau des lectures des textes et des accusations. Alors c'est normal que nous, les musulmans sunnites, on a le droit de répondre. Surtout maintenant, on utilise une méthode que moi je trouve que n'est pas honnête. C'est que dans le temps, on considérait tous les livres des sunnites sont faux. Mais maintenant, on est en train d'utiliser la méthode des témoins de Jéhovah. On cherche dans le Coran des versets qui parlent de Moïse et tout pour dire, voyez, même votre livre il parle de Moïse et tout, alors vous devez suivre ce que disent nos textes. Maintenant, on dit, vous voyez, le Bukhari lui-même, il dit ça, alors, dès qu'on a raison, alors. Alors qu'avant, on dénigrait le Bukhari. C'est une méthode qui, pour les gens qui ne connaissent pas les sciences islamiques et les hadiths, c'est que surtout parmi les jeunes, ça met une confusion dans leur esprit, qui est grave. Et donc, c'est pour ça que je suis amené à parler un petit peu de ça. Mais bien que je ne vais pas entrer dans l'analyse de la doctrine chiite, ce n'est pas le lieu, mais au moins, j'expose ce qu'ils disent sur la Mut'a, et quelle est la position des sunnites, et quels sont les arguments. Alors, Al-Mut'a chez eux, comme l'a défini At-Tusi, C'est un contrat entre un homme et une femme pour une durée définie, contre une dot définie, et il n'y a que ces deux conditions qui sont nécessaires. Et puis après, il dit, le témoignage n'est pas nécessaire, ainsi que l'annonce. Ils ne sont pas parmi les conditions de l'mut'a en aucune façon. Donc c'est rapporté d'après le livre Al-Fiqh ou Al-Fatwa, donc de Toussi, en se rapportant au livre qui s'appelle Kitab al-Nihaya, Fi Mujarrad al-Fiqh ou Al-Fatwa, donc de Toussi. Je répète, donc il considère qu'il s'agit d'un contrat entre un homme et une femme pour une durée définie, un contrat, un mahr défini. Il n'y a que ces deux conditions qui sont nécessaires, puis il le prend. Tandis que le témoignage et l'annonce, ils ne font pas partie des conditions du contrat, en aucune façon. Je vais vous donner la référence, donc ce n'est pas les musulmans sunnites qui parlent, moi je parle des références, comme ils sont. Quelle est la durée minimale du contrat? Il n'est pas défini. Dans le kef, il dit, il suffit qu'il a eu un acte sexuel avec elle pour que la durée soit achevée. C'est-à-dire, c'est pas, et j'ai dans d'autres références, on a demandé à l'imam, est-ce qu'il est valide pour une heure? Il a dit, na'am. Est-ce que le contrat est valide pour sa'a? Qala na'am. Ici, moi je vous parle de le faire dans le kafi, le colini, que j'ai cité. Il dit, il n'est pas défini, c'est bimujarradi ma yaqdi wa tarahu minha. Dès qu'il a eu son plaisir, il peut dire le contrat est fini. Alors, je vous renvoie maintenant à la définition du mariage que je vous ai donnée au début. Je vous rappelle lorsque j'ai parlé de termes de langue arabe qui, par lequel on désigne le mariage en islam, al-zawajou wa al-nikah, la relation d'entremêlement, et ça c'est le nikah, entremêlement, il n'y a pas de séparation, et l'autre c'est al-zawaj dans le sens, c'est-à-dire al-imtizaj, le fait de se dissoudre dans l'autre. Est-ce que ça répond à l'esprit du contrat tel que nous le concevons, puisque chez les sunnites, un contrat où on n'en exprime pas l'intention de le faire durer est un mariage nul. Il faut que dans votre intention, vous dites « Ana uridu ta'bid al-zawaj », je me marie pour faire durer mon union. Mais si dans votre tête, vous allez l'arrêter, eh ben vous êtes dans une situation non conforme à l'esprit du mariage. Donc j'ai dit que le mahar maintenant, la dot c'est quoi? Ils disent ça peut être un dirham et plus. Comme ça a été rapporté chez Al-Kafi d'après Abu Ja'far. Donc un dirham et plus. Quel est son statut? Toujours chez les chiites. C'est un acte recommandé. Dans le livre Al-Wasa'il d'Al-Musawi, on a rapporté d'après Abu Abdullah, il a dit, je n'aime pas que le musulman sorte de cette vie alors qu'il n'a pas encore accompli une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi? C'est-à-dire le mut'a. Il considère donc le mut'a comme une sunna de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent même le terme c'est khullatun. Le khulla veut dire une qualité. Il dit, je vous donne le texte exactement, il a dit, inni la akrahu lil muslimi an yakhruja min ad-dunya, qu'il quitte cette vie, wa qad baqiyat alayhi khullatun, alors qu'il lui manque quoi? Une des qualités du prophète qu'il n'a pas accompli. Wa qad baqiyat alayhi khullatun min khilal rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa lam yaqdiha, dont il ne s'est pas acquitté. Donc c'est dans Al-Wasa'il, le tome 21, la page 13, le Musawi. Je vais vous donner d'autres hadiths. Les leurs. Parmi les hadiths qui sont considérés pour eux authentiques, ce qu'on a rapporté d'Abu Ja'far, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été emmené par l'ange Gabriel vers l'ascension dans le ciel, il dit, l'ange Gabriel m'a rattrapé et il m'a dit, ô Muhammad, Dieu exalté et le Très-Haut dit, j'ai pardonné à ceux qui font le mut'a parmi ta communauté, parmi les femmes. C'est-à-dire les femmes musulmanes qui s'adonnent le mut'a, Dieu leur a pardonné. C'est rapporté dans le Wasa'il de Moussaoui, Le tome 21 à la page 13 et le livre « Malahdhuruhu al-Faqih » deuxième référence que j'ai cité, de l'Qummi, tome 3 à la page 337. « Inna Allah ta'ala yaqulu » Dieu subhanahu wa ta'ala révèle à Sayyidina Muhammad Al-Azhar Gabriel qu'elle a pardonné les muslimettes qui font le mut'a. Autre référence dans le « Malahdhuruhu al-Faqih » tome 3 à la page 366. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui fait le mut'a une fois, il est préservé de la colère du Seigneur, Jabbar. Celui qui accomplit le mut'a deux fois, il sera ressuscité parmi les pieux. Et celui qui fait le mut'a trois fois, il va me concurrencer, moi, Mohammed, dans les paradis. » C'est les références. Moi, je ne dis rien d'autre, je ne fais pas de commentaires. Les textes sont là. C'est-à-dire, je donne le texte. من تمتع مرة أمن سخط الجبار ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار ومن تمتع ثلاث مرات زاحمني في الجنان. Donc la référence Malahdhuruhu al-Faqih, le tome 3, la page 366. Ils disent parce que c'est le Coran qui l'a validé, leur argument. Et ils prennent les versets 23, 24 jusqu'à 26 de la sourate An-Nisa, dans lequel Dieu parle du mariage, puis dit فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. Ils disent, et bien c'est l'argument le plus fondé, plus les hadiths qu'ils ont cités, qui prouve que la mut'a est permise. Et que même, alors que chez les sunnites, le verset, ils le lisent dans le cadre de la relation homme-femme, et ce que Dieu demande qu'on doit leur donner, s'acquitter comme devoir au niveau de la dot. Parce que vous êtes marié avec elle, vous avez consommé avec elle, vous leur devez leur dot. C'est ce que disent les sunnites tous unanimement pour ces versets. Vous n'avez qu'à lire, parce qu'il ne faut pas sortir ces versets de tous les versets qui parlent de la relation homme-femme et mariage. Mais c'est vraiment le verset qui est utilisé pour eux comme argument fondamental. Vous allez me dire, mais ils ne vont pas utiliser, pourquoi ils n'ont pas cité le Bukhari? Mais puisqu'ils ne reconnaissent pas la validité des hadiths de Bukhari muslim, dans lesquels chez nous les musulmans sunnites, le prophète l'a permise puis l'a interdite. Mais je vais revenir aux références des musulmans sunnites. Donc, pour eux, je n'ai pas cité exprès parce que ce n'est pas leur référence. Pourquoi ce n'est pas leur référence? Parce qu'ils considèrent que les compagnons du prophète radiallahu anhum ne sont pas des honorables. Là, ils ne sont pas de confiance puisqu'ils ont pris position contre Ali. Et ils n'ont pas accordé à Sayyidina Ali et à la famille du prophète la tutelle priorité dans le califat, l'imam de la Umma. Donc ils sont considérés tous non honorables et leur transmission non fiable. C'est pour ça qu'on ne trouve pas les références les mêmes. On ne trouve pas la chaîne de transmission là, d'après, puis le compagnon. Ça, vous ne trouverez pas. Ils ont leur propre chaîne. Et même, de toute façon, au niveau des sciences du hadith, si vous faites l'analyse que nous, les musulmans sunnites, on suit, aucun hadith ne tiendra chez eux. Parce que nous, il y a la chaîne de transmission, la an'ana, qui doit être jusqu'à la fin, avec une analyse draconienne, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, mais je n'ai pas à faire aujourd'hui un exposé sur la valeur de le hadith à la lumière du jarh al-ta'dil, des sens du hadith appliqué par le sunnite. Il ne tiendrait pas. Donc, voilà, donc je vous ai donné rapidement, voilà les quatre sources essentielles. Voilà le statut, ce qu'ils disent, des textes, et comment est-ce qu'ils s'appuient. Alors, en quoi consiste ce mariage en vérité? C'est qu'un homme dise à une femme, « Atamatta'u biki » entre guillemets, je traduis littéralement, « Je jouis de toi pour une durée telle, pour une somme telle. » C'est-à-dire, si je révise ce qu'il y a, le mot, c'est quoi? C'est un homme, les conditions de masse, c'est quoi? C'est un homme, une femme, une durée et un salaire. Voilà les quatre éléments. Je n'ai pas cité ni témoin, ni tuteur, ni rien du tout d'autre. Rien. C'est ça les conditions. Rajulun imra'atun ajrun wa muddatun. C'est clair? Après, la question que chacun va se poser, est-ce que vous accepterez ça pour votre fille, pour votre sœur? Est-ce que les sœurs vous accepteraient cela pour vous? Ils disent que, bon, maintenant, le prophète sallam l'a permis dans la razwa, fi razwa, ten aoktham razwa, dans quelques batailles, dans quelques expéditions, lorsque surtout les compagnons qui étaient jeunes, et surtout les célibataires, Ils restaient parfois des mois, quoi, et c'était dur pour eux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a permis. Ça, nous, les musulmans sunnites le disent, aucun problème. Lekin, chez les musulmans sunnites, malgré que cela, il y avait les mêmes conditions du mariage. Donc c'était un mariage à terme, mais avec les mêmes conditions. L'ishar, ou le témoin, la dot, et si un enfant, il est son enfant. Donc c'est les mêmes conditions, mais il était à terme. Puis, chez les musulmans sunnites, ça a été abrogé. Et l'abrogation est confirmée par des hadiths qui arrivent au statut de mutawatir, c'est-à-dire transmis par un bon grand nombre de compagnons, transmis à d'autres, jusqu'à la période où on a consigné les hadiths. C'est des hadiths qui sont arrivés au statut du hadith mutawatir. On nous a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, chez les savants de hadith sunnite, a interdit le mut'a, après l'avoir permise, en 6 occasions. C'est-à-dire, c'est pas qu'il a permis en 6 occasions. Après l'avoir permise, il l'a cité dans différentes situations, 6 fois il a répété qu'elle est devenue haram. 7 dans 6. Donc, pour insister sur l'abrogation, et c'est la position des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des tabi'in et des juristes, que le mariage de jouissance est un mariage invalide. Alors nous allons un peu détailler. Hein. Ils disent que, les chiites aussi disent, mais Ibn Abbas l'avait permise, compagnon du prophète sallam, et aussi le ridi de l'Omma. Mais nous avons la confirmation chez les sunnites que Sayyidina Abdullah ibn Abbas, il est revenu sur sa permission. Lorsqu'il a su les informations et lorsqu'il a su comment est-ce que les gens utilisaient cette permission, c'est devenu un mariage de plaisir. Zna. Alors, même qu'il a entendu certains lui apporter des vers que certains chantaient en disant « Pourquoi tu ne profiteras pas de la fatwa d'Ibn Abbasi ?» Tu te trouves seul la nuit là, tu t'ennuies, et ben, je profite de la fatwa d'Ibn Abbasi, de la vie d'Ibn Abbas. Alors là, il est revenu sur sa décision et déjà avec lorsqu'il a su que les compagnons étaient clairs. Alors, premièrement, pourquoi est-ce que les musulmans sunnites répondent aussi? Ils répondent aussi, parce que j'ai dit dans 6 situations, que tous les versets qui parlent du mariage montrent que le mariage, tel avec ses conditions, il est le mariage de base. Et c'est celui-là que l'islam recherche pour fonder les familles. Et que le mariage de l'muta'a, qui est déterminé, et dont la même la finalité est inconnue. On ne sait pas qu'est-ce qu'on veut de ce mariage. On ne sait pas. On se marie pourquoi? Pour le plaisir, en vérité, c'est ça. Donc, il n'y a pas la question de famille. Et comme je vous ai dit, pour eux, l'Adda, c'est deux cycles. Et s'il meurt, elle doit attendre 4 mois et 10 jours. Mais comme vous savez, elle n'a pas ni de prise en charge pendant cette période-là. Il n'y a pas de nafaka, hein? Même si c'est 45 jours, par exemple, ou 2 mois. Il n'y a pas de nafaka. Il lui a donné le salaire. Donc, il n'y a pas de nafaka. Et s'il meurt entre-temps, il n'y a pas d'héritage. Elle n'a pas le droit à l'héritage. Ce qui n'est pas le cas dans un mariage normal. Si le mari meurt, entre-temps, elle est femme, elle a le droit à l'héritage. Et s'il n'y a pas d'héritage, même s'il meurt avant elle. Donc, maintenant, regardez la contradiction. Chez les chiites, le mariage avec les femmes des gens du livre est interdit. Mais ils le permettent pour le mut'a. Donc, il ne peut pas... J'importe pas, c'est unanimement chez eux. Hein. Chez eux, on ne peut pas se marier avec le kitabiyya. Mais il est permis de jouir d'elle. J'utilise le mot comme il est. Donc haram, elle est à zawaj al kitabiyya, mais il est permis qu'il se marie à terme, pour un jour, une heure, ou 45 jours, ou un mois, tant que je ne sais pas quand il y a la décision qu'il a pris, avec une femme des gens du livre. Donc le mut'a, elle est permise alors que le mariage n'est pas permis. Donc, comme j'ai dit, s'il y a naissance d'un enfant pendant cette période-là, il prend le nom du père, mais s'il le renie, alors ils vont faire l'acte de l'mola'ana qui est cité dans la sourate An-Nur. Elle jure, en se maudissant, qu'il est le sien, et lui, il va se maudire que ce n'est pas le sien, et qu'il dit vrai, et après, il renie l'enfant, il ne prend pas le nom du père. Donc, comme je vous ai dit, dans ce contrat, il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de clair. C'est-à-dire, ils ont terminé la durée. Salam alaykoum salam. Chacun s'en va de son côté. Donc, chez les sunnites, L'interdiction est formelle. Parce que le prophète, comme j'ai dit, a l'interdit. Un, vous prenez les endroits où il interdit. Dans la, l'or, à Khaïba. Un. Deuxième, à Tabouk, lors de la bataille de Tabouk. Il l'a réintégré, l'interdiction, le jour de la reprise de Makkah, Yawm al-Fath. Trois. Quatre. L'année de la reprise de Makkah. Donc le jour est Am al-Fath. Quatre. Cinq. Dans la, lors de l'Umra d'Al-Qadha. La Umra que le prophète n'a pas pu accomplir, il a réaccompli. Et six, lors de Hajjat al-Wada. C'est le pèlerinage d'adieu. Donc je répète, on a six occasions où il y a tawatur que le prophète sallam a interdit. Donc le recours à al-Mut'a. Un, bataille de Khaybar. Deux, lors de la bataille de Tabouk. Trois, le jour de Fatah Makkah. Quatre, l'année de Fatah Makkah. Cinq, lors de l'Umra al-Qadha. Six, lors du serment du pèlerinage à Dieu de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc chez nous, les musulmans sunnites, l'interdiction est formelle, les hadiths sont, les six occasions sont là, ils arrivent au degré du mutawatir, et que même chez les musulmans sunnites, l'imam Abu Ja'far Muhammad al-Baqir et Abu Abdullah al-Sadiq, et qui sont deux imams des chiites, chez nous les musulmans sunnites, on a par la transmission là, continue selon les sciences de hadith musulmans sunnites, ils ont confirmé l'interdiction de Zawaj al-Mut'a. Voilà, donc pour vous dire c'est quoi Zawaj al-Mut'a et pourquoi chez les sunnites il est interdit. Et le fait d'attribuer l'interdiction à Sayyidina Ali, à Sayyidina Omar, c'est vraiment de la bêtise. Parce que certains hadiths ont été rapportés par Sayyidina Ali, radiallahu anhu, et non pas par Sayyidina Omar. Parce que parmi les causes du rejet, les chiites disent que c'est Sayyidina Omar qui a institué et obligé les musulmans à se soumettre à cette interdiction. Alors que nous, dans le, bon, déjà, le hadith de Ghazwat Khaybar, c'est Sayyidina Ali qui a rapporté le hadith. Et dans cette Ghazwat Khaybar, le prophète sallam avait interdit aussi la consommation de la viande, de l'âne domestique. Donc voilà, donc, Zawaj al-Mut'a. Et comme j'ai dit, pourquoi déjà maintenant, pourquoi est-ce qu'il a été interdit chez les musulmans sunnites? Parce qu'il va à l'encontre de la conception du mariage lui-même. Alors, chez nous, les musulmans sunnites, ces textes sont valides et ils sont définitifs. Parce qu'il y a donc les hadiths, je rappelle qu'ils arrivent au degré de mutawatir, et pas aussi parce qu'il y a une intimité, ce qu'on appelle le consensus. Parce qu'imaginons si c'est normal qu'il interdit. Pourquoi les autres compagnons n'ont pas réagi pour lui dire que tu dis faux? Parce que nous, toujours, on utilise cet argument qui semble banal, mais qui est important. Les compagnons de Rasulallah qui ont donné leur vie, pour que ce message soit propagé, pour que ce message arrive à tout individu, et qui n'avait pas peur de la peur ni de la torture, ils vont avoir peur de la personne, c'est normal. Lorsqu'il va prendre des décisions à l'encontre de la loi de Dieu, pour moi ça ne tient pas la route. Que dire que c'est normal à imposer l'interdiction et les musulmans se sont tus, quoi? Tous les compagnons de Rasulallah sont tous pas honorables. Vous savez, lorsqu'on accepte cette formulation-là, eh bien, toute la religion musulmane, vous devez donc vous en défaire. Parce que l'islam, qui nous l'a transmis? Il y a un d'entre vous qui a rencontré Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam? Personne. Qui sont les intermédiaires entre nous et Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam? Quant à l'authenticité du Coran, quant aux règles juridiques de l'islam. Mais c'est les compagnons. Si nous mettons en cause la première génération, il n'y a plus d'islam ni d'histoire d'islam. Sachez-le. C'est pour ça chez nous les musulmans sunnites, kullu ashabi rasulillahi udulun. Tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont honorables, même s'il y a eu des divergences d'ordre politique et des désaccords, cela ne touche pas à leur honorabilité quant à leur sincérité au niveau de l'islam, y compris Sayyidina Muawiya, y compris Sayyidina Amr ibn al-As, qui c'est lui qui a ouvert le Misr à l'islam. Donc, on ne confond pas les oppositions politiques et les divergences dans leurs avis avec leur sincérité d'adhésion à l'islam. Donc, chez les musulmans sunnites, kullu ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhum jami'an udulun. On ne peut pas mettre en cause leur sincérité. Sinon, vous mettez en cause tout ce que vous avez comme patrimoine, hein, y compris le Coran au premier lieu. Parce que c'est eux les transmetteurs du Coran. Donc faites attention, la question n'est pas facile de mettre en cause Sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que les musulmans sunnites se fâchent lorsqu'on accuse ou qu'on touche un compagnon, parce qu'au-delà du compagnon lui-même, on met en cause tout, toute la religion musulmane. Et ce n'est pas aussi facile que ça, que de prendre une position à la légère. Donc, sachez maintenant, ce n'est pas pour vous remonter contre qui que ce soit, sachez que chez les chiites, il est permis de faire tamatta par la fille qui est encore bikr, vierge. Et ils disent, il est préférable qu'il ne le déflore pas. Mais s'il le fait, pas de problème. Elle peut faire tamatta à la fille vierge sans l'accord de son père. Une femme mariée peut faire tamatta aussi. Il peut la céder. De même, on peut faire le tamatta avec l'enfant en bas âge. C'est pas moi qui le dis, allez lire les livres. Ils sont là et je n'invente rien du tout. Donc la fille vierge, il peut faire tamatta sans même le consentement de ses parents. C'est dans les références. Donc, et lorsqu'on discute avec certains de nos frères, ils nous disent, oui, mais si on ne tolère pas et ne permet pas le mot'a, il y aura de la prostitution, il y aura de l'agression sexuelle dans la société. C'est un des arguments, c'est-à-dire c'est une forme de soupape. Pour les gens qui ne se marient pas, comme ça ils peuvent, mais nous on dit, mais la femme n'est pas une soupape, hein. La femme, Dieu l'a créée pour qu'elle soit un partenaire égal, respecté, honoré, et qu'elle soit une mère de famille et un individu. Voilà l'égalité qu'il faut se défendre. Égal à l'homme, et non pas un objet de l'homme, qui dans une année, elle peut passer par 4, 7, 8 personnes. Ben oui, si elle fait une aide de 2 mois, ben combien de mariages elle peut avoir? 6. 6 mariages par an. Avec les risques du sida et de ce qui peut s'en suivre. Donc, c'est des arguments, et c'est pour ça qu'il y a des chiites honorables qui commencent aussi à mettre en cause le mariage de l'mota. Il y a des chiites qui commencent à mettre en cause la question de l'mota et même la question du wilayat al-faqih, c'est-à-dire de l'infaillibilité de l'imam. Il y a des livres qui sont édités en français par des chiites honorables qui commencent à mettre en cause ces choses-là. Voilà, donc... Donc vous avez compris pourquoi chez les musulmans sunnites il y a confirmation vraiment sans aucune restriction quant à l'interdiction et qu'il est question d'unanimité, et ce mariage pour nous les musulmans sunnites il est comme a dit Ibn Abd al-Barr, donc le Malikite rahimallahu ta'ala, le grand savant andalou, il a dit donc pour nous laysa bi nikahin wa huwa sifahun, c'est pas un mariage mais c'est de la fornication. Il a dit ça dans Al-Istilkar, le tome 16, la page 305. Je vais m'arrêter à ce niveau pour vous céder la parole pendant 5 minutes si vous avez des questions. Et la prochaine fois, si Dieu le veut, Inch'Allah, nous parlerons d'un autre type de mariage, et celui-là donc que certains musulmans sunnites permettent, et que la grande majorité s'y oppose, c'est ce qu'on appelle le mariage temporaire. C'est-à-dire mariage dont on définit le terme, mais avec toutes les conditions légales, mais on dit pour un an. Ça s'appelle Zawaj al-Mu'aqqat, que certains juristes musulmans, même contemporains, l'ont validé. Et mais vous allez voir qu'il n'a pas de preuves qui le soutiennent. Et personnellement, moi, je m'y oppose. Moi, je ne suis pas prêt à donner ma fille pour 12 mois. Si quelqu'un vient avec cette condition, ben, il risque vraiment de ne pas sortir. Hein. Donc, Inch'Allah, donc, je vous exposerai cela donc, la prochaine fois, les arguments de certains hanafites qui le permettent, et nous verrons quelle est la position de la majorité contre ce mariage qui s'appelle Zawaj Mu'aqqat. Même dans certains savants contemporains l'ont validé pour certains étudiants musulmans qui sont allés étudier en Bulgarie, dans le pays socialiste vers les années 70 et tout. Oui, mais quelles sont les conséquences de ce type de mariage? Nous en parlerons. Puis on parlera de l'autre mariage interdit. Donc j'ai parlé de Shirar, de Mut'a, ce qu'on appelle quelque part le mariage blanc. J'en parlerai, c'est la définition que donnent certains maintenant. Dans nos générations précédentes, on l'appelait Tayes, c'est-à-dire le faux bouc là. Donc on en parlera et c'est une catastrophe puisque la malédiction de Dieu et de son prophète est sur ceux qui recourent à ce genre de mariage. Comme ça on bouclera, donc il me reste 2 mariages donc, à parler. Je parlerai donc de Zawaj al-Mu'aqqat et de Zawaj qu'on appelle, ou même certains l'appellent le mariage du voyageur. Et puis je parlerai du zawaj al-muhallal wal-muhallal lahu, Et puis je parlerai, comme j'ai dit, Inch'Allah, de ce mariage qui est en vogue surtout au Proche-Orient, c'est-à-dire surtout dans la région du Golfe, qui s'appelle Zawaj Messia, et des fatwas qui ont été données, et quelles sont les réponses qu'on peut apporter. Et bien sûr, chacun assume sa responsabilité face à ce choix. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna hudatan mahdiyyin la dhallina wa la mudhillin. Allahumma anfa'na bima tu'allimuna wa anfa' bina wa zidna 'ilman ya rabbal 'alamin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعلنا اللهم من عتقائك من النار من المقبولين اللهم اجزي عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء اللهم اجزي عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته اللهم لا تخلفنا عن طريقته واجعلنا من أحبابه ومن المحشورين في زمرته واجزي عنا الصحابة الكرام رضي الله عنهم خير الجزاء اللهم اجز عنا العلماء خير الجزاء اللهم اجز عنا والدينا خير الجزاء ومن علمنا خيرا من له فضلا علينا اللهم بارك لنا في جمعنا هذا واجعله جمعا مباركا مرحوما واجعل اللهم تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم